VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde. Aujourd'hui, édition du mercredi 23 novembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Au Burkina Faso, marche des travailleurs de la santé aujourd'hui. Ils ont entamé hier une grève de 72 heures.
Au Zimbabwe, 5 anciens combattants devant la justice accusés d'avoir sapé l'autorité du président Robert Mugabe.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump semble adoucir ses positions sur plusieurs questions, dont la poursuite de sa rivale Hillary Clinton.
Antonio Guterres, prochain secrétaire général de l'ONU, met en garde contre les événements à tendance nationaliste comme les élections américaines ou le référendum du Brexit.
En Syrie, les quartiers rebelles d'Alep, assiégés depuis plus de 4 mois, sont toujours sous les bombes de l'armée syrienne.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, les travailleurs de la santé envisagent une marche aujourd'hui. Hier, les hôpitaux du pays étaient quasiment paralysés par une grève du Syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, le plus puissant syndicat du personnel de santé du Burkina, pour exiger des augmentations de salaire et des indemnités. La grève de 72 heures doit prendre fin jeudi, selon ce syndicat qui réclame aussi le renforcement et l'équipement des hôpitaux, ainsi que le recrutement et la formation de personnel. Le ministre de la Santé, Smaïla Ouédraogo, reste optimiste quant à une solution, soulignant que les deux parties se sont entendues sur 59 des 63 points soulevés.
Le Canada a annoncé hier qu'un premier avion cargo de son armée de l'air a acheminé ce week-end des soldats et du matériel français en Afrique de l'Ouest dans le cadre d'une mission de coopération militaire. Il s'agit du premier vol de l'opération Fréquence, a annoncé le ministère canadien de la Défense, sans préciser la destination du vol.
La France a déclaré pour sa part vouloir resserrer ses liens avec l'Afrique afin de lutter contre le terrorisme djihadiste. C'était lors d'une réunion à Paris entre le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et 11 homologues africains. Pour mieux lutter contre la propagande terroriste et toucher le public jeune, particulièrement exposé à l'endoctrinement, nous allons développer des campagnes de contre-propagande, a déclaré M. Cazeneuve.
Au Maroc, une des principales organisations d'ouléma du pays a annoncé hier avoir rendu publique une série d'études pour déconstruire le discours de haine et de violence des extrémistes musulmans comme le groupe djihadiste État islamique. Ces cahiers scientifiques ont été mis en ligne lundi par la Ligue Mohammedia des Oulémas sur son site internet, a indiqué à l'AFP le secrétaire général de cette institution publique, Mohamed Abadi.
5 anciens combattants du Zimbabwe ont comparu devant la justice pour avoir sapé l'autorité du président Robert Mugabe en critiquant ses méthodes dictatoriales. Le point avec Dili Diko.
Douglas Maïa, le porte-parole de l'Association nationale des anciens combattants du Zimbabwe, et 4 autres responsables ont été interpellés en août. Ils avaient écrit un texte accusant M. Mugabe de comportement dictatorial et disant qu'il ne soutiendrait pas une nouvelle candidature de M. Mugabe à la présidence. Il n'y a aucun délit, a plaidé hier leur avocate Béatrice Mtewa devant le tribunal de Harare. Selon elle, ses clients ont adressé leur lettre au président du parti au pouvoir et ne peuvent être poursuivis pour offense au chef de l'État. L'audience doit se poursuivre aujourd'hui avec le réquisitoire du procureur. La grave crise économique que traverse le pays, où 90% de la population est au chômage, maintient la pression sur le régime de Mugabe, âgé de 92 ans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump a semblé reculer sur certains thèmes chers à sa campagne électorale, y compris écrouer son ancienne rivale démocrate Hillary Clinton. En fait, malgré ses attaques incessantes contre le New York Times, c'est à ce grand quotidien américain qu'il est allé confier ses nouvelles vues dans une interview exclusive hier. Précision de Jean-Roger Bion.
Pour Donald Trump, il faut aller de l'avant. et poursuivre Mme Clinton, que ce soit pour ses mails privés ou la fondation de son mari, l'ex-président Bill Clinton, diviserait énormément le pays. En outre, estime M. Trump, cette question a été examinée ad nauseam. Mme Clinton a déjà trop souffert au cours de cette méchante campagne et il ne tient pas à causer du tort aux Clinton, a-t-il souligné. Des analystes ont rappelé que dans le système américain, il n'incombe pas au président de déterminer qui doit ou ne doit pas être poursuivi. Donald Trump semble également adoucir sa position sur le changement climatique. Maintenant, il se dit ouvert à l'accord de Paris, ajoutant qu'il y a un lien entre l'activité humaine et le changement climatique. Il l'avait qualifié de canular inventé par les Chinois. M. Trump a été aussi interrogé sur les nationalistes blancs qui ont récemment célébré sa victoire samedi à Washington par des saluts nazis. « Je ne veux pas galvaniser ce groupe et je le désavoue », a-t-il déclaré. Le président élu a par ailleurs indiqué avoir changé d'avis concernant l'usage de la torture qu'il avait pourtant promis de rétablir pendant sa campagne électorale.
Le prochain secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est exprimé hier pour mettre en garde les pays riches. Ceux-ci ne doivent pas ignorer les perdants de la mondialisation en se focalisant uniquement sur les événements à tendance nationaliste, comme les élections américaines ou le référendum du Brexit. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Lors d'une conférence sur la crise des réfugiés à Lisbonne, au Portugal, Antonio Guterres a dénoncé la tendance nationaliste qui, selon lui, a sapé les volontés européennes d'accueillir plus de réfugiés cette année. Le monde, a-t-il dit, doit rétablir une protection internationale pour les réfugiés en provenance des zones de guerre comme la Syrie. En 2016, nous avons assisté à une terrible détérioration du régime de protection internationale pour les réfugiés, a déclaré M. Guterres. Une tendance qui a commencé dans le monde développé, a-t-il poursuivi, tendance qui se propage maintenant comme un virus dans d'autres parties du monde. Mais pour le prochain secrétaire de l'ONU, il s'agit d'un problème plus global que la seule question des réfugiés. Au milieu des années 1990, un consensus s'est dégagé sur le fait que la mondialisation serait bénéfique pour tous, a-t-il expliqué. Pour lui, trop de gens ont été laissés sur le côté et c'est ce qui explique que Donald Trump ait gagné les élections américaines.
En Syrie, les quartiers rebelles d'Alep, assiégés depuis plus de 4 mois, sont toujours sous les bombes de l'armée syrienne. Pour sa part, la communauté internationale semble résignée à voir la ville tomber dans sa totalité entre les mains du régime, selon les experts. Au total, 143 civils, dont 19 enfants, ont péri en une semaine de bombardements à l'artillerie et depuis les airs dans Alep Est, tandis que 16 autres civils, dont 10 enfants, ont été tués par les tirs rebelles dans Alep Ouest, contrôlé par le régime, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Toujours concernant la Syrie, le porte-parole du Pentagone, Peter Cook, a annoncé hier qu'une frappe aérienne américaine a tué vendredi un haut responsable d'Al-Qaïda près de la ville syrienne de Sarmada. De nationalité égyptienne, Abu Afghan al-Masri a intégré Al-Qaïda en Afghanistan avant de rejoindre son émanation syrienne, a dit le porte-parole.
Les États-Unis ont inscrit hier sur leur liste noire de terroristes internationaux un franco-marocain ancien de la Légion étrangère. Il le soupçonne d'avoir planifié les attentats de Paris et de Bruxelles, même s'il n'apparaît pas dans l'enquête française sur le 13 novembre 2015. Il s'agit d'Abdelilah Imish, surnommé Abdel Légionnaire ou Abu Suleiman Al-Faransi, parti en Syrie en 2014 pour rejoindre le groupe État islamique. Il a mis sur pied l'année suivante une cellule de combattants étrangers européens, vivier d'auteurs d'attaques en Irak, en Syrie et à l'étranger.
Haïti a connu hier une deuxième journée de tension dans l'attente des résultats des élections de dimanche. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des manifestants soutenant la candidate à la présidentielle Maryse Narcisse. Les équipes de Mme Narcisse, candidate du parti Fanmi Lavalas, soutenue par l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, et de Jovenel Moïse, le candidat du parti Tête Calée, du président sortant Michel Martelly, ont revendiqué la victoire. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, John Linden.
Le budget du Cameroun en hausse de 3,3% pour 2017. Le projet de loi des finances a été déposé hier au Parlement. Les recettes et les dépenses s'équilibrent à 4 373 milliards de francs CFA. Ce budget est bâti sur des hypothèses de 6% de croissance et de 3,3% d'inflation en 2017. Les investissements publics sont estimés à 1 586 milliards de francs CFA, soit 36% de l'enveloppe globale. En Afrique du Sud, le taux de chômage a augmenté au troisième trimestre pour atteindre 27% de la population active, son plus haut niveau depuis 2003, a annoncé hier l'Agence nationale des statistiques. Près de 6 millions de Sud-Africains sont officiellement à la recherche d'un emploi. Ceux qui ont entre 15 et 24 ans sont les plus touchés, avec 54,2% de la population active sans emploi. 190 milliards de francs CFA, c'est le montant de la somme que vient de lever la filiale ivoirienne du groupe français Orange sur le marché bancaire local et international via un syndicat de banque. Cet argent devrait permettre de refinancer ses opérations en Afrique de l'Ouest. La signature de la convention s'est déroulée à Abidjan. Orange est le leader sur le marché ivoirien avec 11 millions d'abonnés.
À présent, notre page sport avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Joueur africain de l'année, Aubameyang et Mahrez, finaliste.
Ah oui, la Confédération africaine de football a annoncé mardi la liste des joueurs finalistes des trophées du joueur africain de l'année et du joueur africain de l'année basé en Afrique. Ils seront remis à Lagos en janvier prochain pour le joueur africain de l'année. Les cinq finalistes sont le favori Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais du Borussia Dortmund, le vainqueur sortant. Il doit affronter Riyad Mahrez, l'Algérien de Leicester, Sadio Mané, le Sénégalais de Liverpool, Mohamed Salah, l'Égyptien de l'AS Rome et Islam Slimani, l'Algérien de Leicester. Pour le joueur africain de l'année basé en Afrique, les Mamelodi Sundowns se taillent la part du lion puisqu'il remporte les cinq nominations. Kamabiliat, Kegan Doli, Rainford Kalaba, Anflo Kekana et enfin Denis Onyango sont les cinq finalistes pour ce trophée.
Cannes féminine 2016, le Cameroun espère confirmer son bon début de compétition.
Après sa victoire en ouverture de la Cannes contre les Égyptiennes, les Camerounaises confirment et battent l'Afrique du Sud 1-0. C'est Ngombelek qui inscrit le but victorieux à la 82e minute. Dans ce groupe, l'Égypte est deuxième après sa victoire 1-0 devant le Zimbabwe. À suivre ce mercredi, le Nigeria contre le Ghana et le Kenya à Limbé face au Mali. Allez Drissa, on parle à présent avec vous de la 5e journée de la Ligue des Champions en Europe.
Match nul 1-1 entre le CSKA Moscou et Bayer Leverkusen. Monaco-Tottenham 2-1. Dortmund-Legia Varsovie 8-4. Sporting Portugal-Real Madrid 1-2. FC Copenhague-FC Porto 0-0. Leicester-FC Bruges 2-1. Dynamo Zagreb-Lyon 0-1. FC Séville, Juventus Turin, 1-3. Et maintenant avec vous, Nicolas, la suite des matchs ce mercredi.
Dans le groupe A, le choc Arsenal-Paris Saint-Germain, les deux équipes ont déjà leur billet pour les huitièmes de finale. Seul inconnu, la première place du groupe. On se souvient que lors du match aller au Parc des Princes, les Gunners et les Parisiens s'étaient séparés sur un match nul, 1-0. L'autre rencontre entre le Ludogorets et le FC Bâle. Dans le groupe B, tout est encore possible dans ce groupe homogène où les quatre équipes peuvent prétendre à l'un des deux tickets pour le tour suivant. Naples et Benfica sont les mieux placés avec 7 points, suivis par le Beşiktaş à 6 points. Les rencontres ce soir, Beşiktaş-Benfica et Naples contre le Dynamo Kiev. Dans le groupe C pour Barcelone, une victoire sur la pelouse du Celtic de Glasgow sera suffisant pour se qualifier et même un nul si Manchester City ne s'incline pas contre Mönchengladbach. Enfin, dans le groupe D, tout est déjà plié. Seul inconnu, qui sera premier du groupe, soit l'Atlético Madrid, soit le Bayern de Munich. Rostov accueille les Bavarois. Quant à l'Atlético Madrid, le club accueille le PSV Eindhoven. Enfin, Idrissa, avec vous, les résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Portland, New York Knicks, 103-107. New Orleans Pelican Atlanta 112-94, Chicago Denver 107-110.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Cameroun a rouvert sa frontière avec le Nigeria, relançant ainsi les activités économiques après 2 années de relative accalmie suite aux attaques de Boko Haram. Toutefois, les voyages transfrontaliers font encore l'objet d'un contrôle strict et les commerçants se déplacent toujours sous escorte militaire. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka, présenté par Lionel Gahima.
Des centaines de marchands sont de retour au marché frontalier de Limani, dans l'extrême nord du Cameroun. Ils se livrent avec leurs homologues venus du Nigeria aux activités commerciales interrompues il y a 3 ans par les incursions des islamistes nigérians. Pour Alhaji Bakari Balje, secrétaire général du marché de Gambaringara au Nigeria, la fin des atrocités de Boko Haram a permis de relancer le commerce avec le Cameroun. Nous remercions Dieu que cette place soit redevenue une source de revenus pour le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Et nous ne céderons à la manipulation de ce qui reste de Boko Haram et qui veut nous dominer. Boko Haram a déjà été défait. Pour sa part, le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, Madjiama Bakari, prédit une réduction de la pauvreté endémique et de la misère dans la région du fait de la réouverture de la frontière avec le Nigeria. Il a souligné la nécessité d'un contrôle strict du mouvement de biens et des personnes.
Les commerçants, les transporteurs nigériens partent aujourd'hui de Maïdougouri jusqu'à Gambaru, frontière avec le Cameroun. Nous ne voulons pas, pour tout dire, qu'il y ait des trafics d'armes ou des infiltrations ou des kamikazes. Tout se fera sous contrôle. Qu'il s'agit de desserrement, ce n'est pas l'ouverture totale, ce sera en gestion coordonnée. C'est une opération qui sera très suivie et qui fera l'objet d'évaluation. Il est question de retenir le gabarit des véhicules qui vont passer. Le type des marchandises, des parts et d'autres, ne vont pas traverser le pont. Tout sera déversé et fera l'objet d'un contrôle des fonds en comble.
Pour le général Jacob Kodji, commandant des troupes camerounaises déployées contre Boko Haram, cela fait 1 an que ces forces n'ont pas eu à mener d'offensive majeure contre les islamistes nigérians.
Le front est stable, il est calme, la frontière est encore intacte. Il y a une semaine, beaucoup d'incursions et des attaques ont été menées sur nos positions. En ce qui concerne les attaques, elles se sont soldées par la déroute de l'ennemi avec un bilan négatif. Nous n'avons enregistré aucune perte en vies humaines, encore aucun blessé, encore aucun matériel perdu. Des renseignements sur des ralliements, sur des dissensions, nous ne pouvons ni les affirmer, ni les confirmer.
L'espoir est qu'avec la réouverture de la frontière, les activités économiques et commerciales seront relancées dans la région, même si les autorités continuent d'être préoccupées par la sécurité des populations locales.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
À Kinshasa, en République démocratique du Congo, lancement d'une campagne dénommée « Bye Bye Kabila ». Plusieurs mouvements pro-démocratie et des partis politiques de l'opposition ont entamé hier, en présence de diplomates et d'organisations internationales, une série de manifestations pour appeler au respect de la Constitution. Eddy Isango a interviewé à ce propos un des animateurs du regroupement Filimbi, Carbone Beni Wabeya.
La cellule Kinshasa de Filimbi, ainsi que Loucha, Tantarebo, d'autres mouvements citoyens, et avec les actionnaires du MLC, du Rassemblement, d'autres associations de jeunes, se sont mis ensemble pour que nous puissions lancer ce que nous appelons la campagne Bye Bye Kabila. Cette campagne consiste à sensibiliser la population congolaise tout entière à être éveillée pour que nous fassions respecter la Constitution du 19 décembre 2013. C'est-à-dire le président Kabila doit respecter la constitution en démission. En ce jour-là, je vais suivre par une marche pacifique qui sera organisée le 25 vendredi de ce mois, qui consistera à distribuer des actes reprenant l'article 64 de la Constitution qui doit être appliqué par la population au cas où qu'elle voudrait éterniser ou exercer le pouvoir en violation de la Constitution.
Vous n'avez pas été dispersé?
Nous n'avons pas été dispersés. Il y avait la présence stratégique de partenaires de la RDC qui étaient là, les ambassades, les diplomates, la MONUSCO, la presse internationale, ainsi que tous les autres. Donc la chose s'est bien passée.
Les gouvernements des États-Unis demandent aux acteurs politiques congolais et à l'opposition de ne pas tenir un langage incendiaire. Qu'est-ce que vous en dites?
Nous sommes en train d'appeler le peuple à exercer ses droits dans la non-violence. Les paroles incendiaires ou les situations haine n'est pas notre lot.
Le président Joseph Kabila a nommé un premier ministre et un gouvernement doit être mis sur pied en vue d'un gouvernement qui conduira les pays aux élections. Est-ce que vous ne perturbez pas cette démarche-là?
Nous sommes en train de constater que l'opinion est en train d'être distraite par cet accord politique et le fait de signer cet accord pour dire voilà, le président Kabila va rester au pouvoir jusqu'en 2018. C'est une violation extrêmement grave de la Constitution. Voilà pourquoi, soucié de valeurs républicaines, nous avons lancé cette campagne pour que la population sache aussi qu'il est temps de dire au revoir au président Kabila. Les gouvernements de somme, il doit absolument respecter la Constitution en quittant le pouvoir. Et cette campagne, c'est une contre-campagne, en fait, contre cet accord politique qui est tenu récemment par le chef de l'État lors du Congrès à l'Assemblée nationale pour demander aux autres à adhérer à une violation de la Constitution.
Et qu'en est-il de la démarche des évêques catholiques qui sont en train d'essayer de ramener tous les points de vue ensemble en vue d'un consensus?
La démarche de la CENCO est bonne, mais nous ne sommes même pas en train de voir un dialogue, un consensus qui maintiendrait le président au pouvoir, ça se mettre le pays une fois de plus à genoux. Le consensus pourrait être trouvé après le 19 décembre, question de voir comment est-ce que le pays sera géré dans la période pré-électorale.
Carbone Beniwa Beya, un des animateurs du mouvement Filimbi à Kinshasa.
VOA Afrique, 24h/24, à Kisangani, en RDC. Sur 97.7 FM.
Au Burkina Faso, les travailleurs de la santé envisagent une marche aujourd'hui. Hier, les hôpitaux du pays étaient quasiment paralysés par une grève du Syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, le plus puissant syndicat du personnel de santé du Burkina, pour exiger des augmentations de salaire et des indemnités. Il s'agit d'une grève de 72 heures sans service minimum, ce qui provoque un malaise dans la société burkinabé, nous dit de Ouagadougou notre correspondant Issa Napon.
Nous sommes à l'hôpital Yelagadougou-Draougo, le plus grand du pays. Karim Sawadougou a accompagné sa femme qui attend encore des soins après une césarienne subie la nuit dernière.
J'ai amené ma femme pour problème de grossesse. Donc, mais ça s'est passé pour intervention. Donc, ils ont fait ça hier soir à 15. Depuis hier soir à 15, quand ils ont placé première prévision là, jusqu'à 7h. Donc, il n'y a plus docteur pour venir faire le pansement.
Il ne faisait pas bon tomber malade. Les structures de santé publique avaient respecté le mot d'ordre de grève sans service minimum. Une situation qui embête un peu le responsable de la section des urgences médicales de Yalagadougou-Draougo qui s'émeut, Staffa Konaté.
C'est la seule infirmière qu'il y a là ce matin, depuis ce matin disons, sur 4. J'avoue que ce n'est pas facile. Il y a eu des stagiaires qui l'ont soutenu et aussi ils ont leurs heures de détente. On n'a pas tenu à les garder. Ils sont partis. Du côté du personnel de soutien, il y a une fille des salles, plus deux garçons des salles. Donc, sinon, l'équipe est composée aussi de 5. Donc, sur les 5, il y a 3 qui sont là.
Pendant ce temps, dans la rue, la colère ne cesse de monter.
Moi, vraiment, je ne suis pas d'accord. Parce que même en temps de guerre, on soigne les gens. Mais il y a une chose qu'ils doivent savoir, c'est qu'il faut là, c'est pas bien. On travaille pour négocier. On ne grève pas en négociant. Ce n'est pas possible.
Moi, en tout cas, mon avis, c'est négatif. Sincèrement dit là, si moi je pense que quelqu'un a prêté serment et il renie ce serment là aujourd'hui pour une histoire de perdième, de quoi, de l'argent, de quoi que quoi, vraiment ça ne va pas quoi. Et c'est déplorable pour des intellectuels.
Pour le ministre de la Santé, sorti en tournée pour constater la réalité, une rapide paix des braves est nécessaire. Docteur Smaïla Ouedraogo.
Sur une plateforme de 63 points, 59 points ont fait l'objet d'accord. Il y a 4 points qui ont fait l'objet de désaccord. Alors donc j'interpelle les uns et les autres. Donc, à savoir que nous sommes dans un secteur quand même assez particulier, qui est le secteur de la santé, pour que les uns et les autres puissent mettre de l'eau dans leur vin.
Ailleurs, heureusement, quelques rares centres de quartier fonctionnent à peu près mieux, comme le dispensaire du quartier Wemtenga, où nous rencontrons le responsable, Abdoulaye Tarnagda.
Nous sommes obligés justement d'organiser des services minimums pour ne serait-ce que prendre en charge les urgences. Puisque nous savons que cette grève, nous la faisons, c'est à notre corps défendant.
Une première journée de grève très suivie et pour l'instant, aucun signe qui puisse inciter à l'optimisme dans une atmosphère déjà pesante dans les centres de santé publique. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
L'économie sud-africaine a du plomb dans l'aile, accusant un taux de chômage de 21,1% au troisième trimestre de cette année. Selon l'Agence nationale sud-africaine des statistiques, c'est le taux le plus élevé depuis 2003, une situation qui met en lumière les inégalités prévalant en Afrique du Sud 22 ans après la fin de l'apartheid. Pour une analyse, Timothée Donangmaï a joint en Afrique du Sud David Zounmenou Dossou de l'Institut d'études de la sécurité de Pretoria.
L'économie sud-africaine continue toujours de souffrir des problèmes structurels hérités de l'apartheid et en plus de la forte régulation. L'intention initiale était de protéger l'économie, mais je pense que la forte régulation de l'économie de ce pays continue de lui porter des coups durs. Et tout récemment, la chute des coûts de matières premières n'a pas été tellement extraordinaire également pour rehausser le niveau de l'économie de l'Afrique du Sud.
Alors, on parle d'un taux de chômage de plus de 27%, un chômage qui touche particulièrement la majorité noire.
Tout à fait. Je pense que le taux de chômage au sein de la majorité noire avoisine les 47% si on décompose, alors qu'elle est à peine de 10 à 15% au sein de la population blanche. Je crois qu'il y a ici des questions beaucoup plus conjoncturelles. Par exemple, tous les Noirs n'ont pas accès à la même qualité d'éducation. En plus, à la sortie de l'université, on leur demande souvent des années d'expérience qu'ils n'ont pas forcément acquises. Aussi, le secteur minier a été le secteur qui a pendant longtemps absorbé les demandeurs de travail, les demandeurs d'emploi. Sur ces dernières années, a connu des déboires, des difficultés, certains ont fermé. Il y a eu même des situations vraiment dramatiques comme celle de Marikana où les mineurs se sont révoltés, ce qui a été soldé par une quarantaine de morts. Je pense que ça va rester une tâche dans l'héritage politique du président Zuma, qui, au début de son mandat, avait promis créer 500 000 emplois par an. Malheureusement, la réalité sur le terrain économique n'est pas la même que la rhétorique politique. Et malheureusement, l'Afrique du Sud continue toujours de traîner un grand nombre de chômeurs qui constituent, à mon avis, un bétail électoral pour les populistes politiciens du pays.
Qu'est-ce que les autorités sud-africaines font pour essayer de résoudre le problème?
Je pense que les solutions partent souvent des allocations sociales aux ménages et à certaines communautés, mais c'est des mesures qui ne sont pas vraiment ancrées dans les institutions, sinon dans la tradition économique du pays. Ça transforme les récipiendaires en mendiants et en dépendants au lieu de les rendre capables de produire et de générer eux-mêmes les sources de revenus.
David Zounmenou Dossou de l'Institut d'études de la sécurité de Pretoria.
Dans Washington Forum ce jeudi, Tatiana Mosso avec vous. Retour sur la COP22 à Marrakech après 2 semaines de discussions. Un sommet marqué par l'incertitude suite à l'élection aux États-Unis du climato-sceptique Donald Trump. Quelle avancée dans l'application de l'accord de Paris? Quel bilan pour le continent africain, notamment les partis des Verts? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec nos invités.
monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.